proof enough to make you think and stop before your chips sink to the bottom. Like Abilene, the marble spot 'em. You know.
En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir à tous, bienvenue dans un air de vie, la deuxième, sur Principe Actif. Bonsoir Kevin.
Salut Jérôme.
Bonsoir Fred.
Bonsoir Jérôme.
Alors ce soir, pas de local. On n'est pas allé se promener dans la campagne, on n'a pas mis nos bottes, on n'a pas été dans la boue. On va faire que du national et de l'international, actualité oblige. Et ouais, on va parler de trois sujets. Fred ?
Oui, trois sujets qui nous ont... Alors, d'un premier sujet dont les deux autres vont découler... Le premier sujet, c'est la conférence environnementale qui a lieu maintenant il y a 15 jours, 3 semaines, qui est passée, je crois, globalement relativement inaperçue.
On va enchaîner avec après la suite sur le nucléaire, avec un petit rapport de Greenpeace.
Et puis on va finir sur le rapport du GIEC. On va réexpliquer ce qu'est le GIEC et on va se faire peur. Mais avant, je pense que, Kevin, t'as un petit grain de sable, l'histoire d'un petit grain de sable à nous raconter.
Exactement.
Un grain de sable dans la belle mécanique éco-capitaliste.
Exactement, c'est ça. Un petit truc qui m'a fait vraiment marrer. Je voulais déjà vous en parler la semaine dernière, mais suite à mon retard, je n'ai pu vous en faire partager. C'est en fait l'histoire d'une association en fait écolo, dont je ne vais pas citer le nom parce qu'en fait je m'en souviens plus sur le coup, mais qui ont dénoncé les publicités qui sont finalement révélées mensongères de la part de nos grandes compagnies, pas que françaises mais aussi étrangères. Donc il y avait Renault, Citroën, voilà pour la Zoé, puis j'oublie leur nom de voiture.
La C0, je crois.
Oui, voilà.
J'aime beaucoup ce nom.
Je pensais qu'on n'a pas le droit de citer.
Après, t'es obligé de dire Peugeot, Mazda.
C'est officiel, hein, c'est officiel. De toute façon, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et donc, cet asso les a dénoncés pour publicité mensongère. Parce que tout simplement, ils font du greenwashing. Ils mettent en avant la voiture écologique, la voiture verte, développement durable. Alors que, point du tout, cette voiture est construite comme n'importe quel autre véhicule, pollue tout autant en fait à la construction. Et d'ailleurs, Renault a senti le coup venir et ils ont retiré leur publicité avant que le tribunal d'éthique de la pub vienne leur taper dessus et leur interdire et surtout revenir sur leurs propos mensongers. Désormais, ils ne peuvent simplement mettre que c'est une voiture écologique à l'usage, mais point du tout une voiture type développement durable. Il n'y a aucune prévue pour recyclement des pièces à la suite de ça.
Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est... Après, on peut toujours se poser la question sur ces fameux véhicules électriques, sur leur utilisation et sur leur développement. C'est une solution parmi d'autres, pour moi, pour le transport, mais c'est pas forcément celle qui doit envahir la planète à l'avenir.
Est-ce que ce qui nous faisait penser, d'ailleurs, le greenwashing, c'était ce que nous avait dit Aurélie, donc pour les jardins de Chloé, qui nous disait que c'est vraiment une tendance. Ça me fait aussi penser au vert, vous savez, derrière le M de McDonald's, où d'un seul coup, on a l'impression...
Ou dans les grandes surfaces, où le rayon bio a pris de plus en plus d'ampleur, avec finalement des produits qui ne sont pas vraiment...
Pas toujours,
voilà, on va croire qu'on est des écolos anticapitalistes et compagnie. Voilà, on fait une pause musicale. Puis après, on va rétablir quelques vérités. Ok ?
Ok, c'est parti.
Vous écoutez Un air de vie sur Principe Actif. Qu'est-ce qu'on a écouté là, Kevin ?
Eh ben, on a écouté un truc super sympa qui s'appelle, donc en fait c'était une reprise du boléro de Ravel façon manouche par le groupe qui s'appelle Les Doigts de l'Homme dans un album qui s'intitule Gypsy Jazz Nucléaire.
Ah, tu l'as bien dit là.
Là, je l'ai bien dit. Ouais.
Allez, premier sujet. C'est quoi déjà le premier sujet, Fred ?
La conférence environnementale à la demande de Jérôme, je crois, non ?
Et oui, bah, faut quand même, c'est important nationalement la conférence environnementale. Donc elle s'est tenue le 20 et le 21 septembre 2013 à Paris. Et donc c'était l'occasion de discuter d'un certain nombre de sujets sur l'environnement. On va y revenir, on va prendre chacun la parole. Et, mais bien sûr, il y a déjà une conférence environnementale en 2012 hein, qui avait débouché sur quelques petites choses qui sont reprises dans la conférence 2013. Et c'est exactement le même format que la conférence sociale organisée aussi cette année. Donc il semblerait que le gouvernement actuel et le président aient adopté ce format.
Alors Jérôme, c'est des conférences qui s'adressent à quel public ?
Oh là ! Alors, précisément, organisation syndicale bien sûr, hein, puisqu'il faut parler d'emploi, sauf que non, je ne vais pas plus loin. Organisation d'employeurs, association environnementale, collectivité locale, etc. Association non gouvernementale. Donc, une large représentation de la population, des activités, des engagements au sein de différentes tables rondes. Et donc, il y a eu 5 tables rondes, à chaque fois avec un thème en particulier. Alors, premier thème, eh bien, notamment, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, ne me demandez pas une définition de l'économie circulaire, je n'ai pas eu le temps de potasser ça. Mais grosso modo, c'est comment mieux utiliser nos ressources et définir des objectifs de long terme. Alors, parmi les objectifs qui se sont fixés et les grands principes, c'est notamment favoriser l'éco-conception des produits pour augmenter leur durabilité. Et là, bien sûr, ce qui est réaffirmé, c'est une belle notion qu'on appelle l'obsolescence programmée. Il faut absolument mettre fin à l'obsolescence programmée. Alors, est-ce qu'un de vous peut me dire ce que c'est que l'obsolescence programmée ?
Bah, c'est le fait de concevoir un objet en prévoyant une durée de vie limitée. Voilà. Avec certaines pièces qui vont être obligatoirement HS au bout de 2, 3, 4 ans. Généralement, juste après avoir dépassé le temps de garantie.
Voilà, la machine à laver.
C'est plutôt cynique.
La machine à laver de nos grands-mères, elle, c'était pour toute la vie. Et maintenant, ça dure 2, 3, 4, 5 ans. Et bien sûr, on nous fait des garanties.
Mais c'est pour créer de l'emploi, tout ça, non ?
Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Après, peu importe ce que ça devient dans la nature. Hein. Bon, allez. Donc, la lutte contre les pratiques d'obsolescence programmée, voilà. Et puis, mobiliser aussi ce qu'on appelle des filières à responsabilité élargie du producteur. Allez, je la refais. Responsabilité élargie du producteur. Alors, c'est une notion qui est entrée en vigueur en France, en fait, dès la fin des années 90. Bien sûr, sur directive européenne. Hein. Alors, ça consiste simplement à faire payer ceux qui mettent sur le marché des objets qui deviendront des déchets et ils payent en fait à un éco-organisme qui va reverser de l'argent aux collectivités ou aux associations pour organiser une collecte séparée de ces objets devenus déchets. Voilà.
C'est le fameux petit symbole des deux flèches qui s'enroulent ou...
Alors voilà, ça c'est éco-emballage pour les emballages. Mmh. Aujourd'hui, dernièrement, on a vu apparaître à partir du 1er mai 2013 éco-mobilier. Maintenant, quand vous allez chez des grandes enseignes, on ne les cite pas les grandes enseignes.
Non plus.
Bon. Donc quand vous allez vous acheter un fauteuil de bureau pour vous mettre devant votre ordinateur, maintenant vous payez une écotaxe. Et donc ça finance avec ce que paye le fabricant, donc la collecte sélective des déchets de mobilier et donc le recyclage. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Autre élément qui intervient dans cette table ronde dite économie circulaire, bien sûr, c'est de mieux connaître tous les flux de déchets de matière. Notamment pour que la notion que des déchets, qui sont aujourd'hui des déchets, on va faire du pléonasme, n'en soit plus, mais deviennent des matières recyclables, matières à revaloriser, et qu'on ait pu puiser dans les ressources naturelles. Même si aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a beaucoup de mines, beaucoup de ressources. Non, c'est pas vrai. Mais donc, voilà, c'est un enjeu très important. Alors voilà, vraiment une première table ronde importante, dite économie circulaire. Fred, un petit commentaire ou la deuxième table ronde ?
Oh, j'enchaîne tout de suite sur la deuxième table ronde. Alors, c'est vraiment des conférences qui ratissent large, j'ai envie de dire, et avec des thèmes très variés. Mais je pense que pour les personnes qui sont concernées, c'est souvent des sujets importants. Une des deuxièmes tables rondes, c'était sur la biodiversité marine, des mers et océans. avec toute une campagne, une réflexion sur les macro-déchets marins. Alors, Kevin nous avait parlé de ces fameuses îles qui se créent actuellement dans le Pacifique.
Où, les îles de déchets, oui.
Voilà, les îles de déchets où tous les plastiques étaient rejetés en mer, s'agrégaient pour former finalement une sorte de septième continent. Et donc, c'est un problème que a décidé d'aborder cette conférence de manière plus proche de nous. Il y a un travail qui va pour une pêche plus durable. Alors, la pêche plus durable en mer, dans les océans. Nous, à Un Air de Vie, on a décidé de s'intéresser dans une de nos prochaines émissions à la pêche plus locale.
Exactement.
Le dauphin.
le dauphin de Liton. Voilà pour donc la deuxième table ronde.
Alors, la troisième table ronde, eh ben, on reste dans l'eau. Ça concerne la politique de l'eau. Et donc, la troisième table ronde s'est intéressée, bien sûr, à la lutte contre les pollutions de l'eau, notamment eh bien, les nitrates, les produits phytosanitaires. Aussi l'amélioration du traitement des eaux usées domestiques, puisque rappelons quand même qu'une partie de notre eau potable finit dans nos toilettes. Et puis,
ça, c'est du gâchis quand même, non?
Ah, moi, j'imagine. Oui, je trouve, hein, mais bon, après...
C'est énorme. De l'eau potable pour les toilettes, non?
Ouais. Après, ce qui serait bien, c'est d'avoir tous des toilettes sèches, mais après, dans les immeubles, c'est peut-être pas évident.
Oui, bon. Enfin, on peut aussi d'avoir des solutions de récupération d'eau de pluie ou d'autres systèmes pour qu'il n'y ait pas de l'eau potable dans nos toilettes. Hein,
ah ouais, c'est vrai, ce serait pas mal. Mmh, ouais, mais si on récupère l'eau de pluie, qu'est-ce qu'elle devient, notre nappe phréatique?
Alors là, déjà, l'eau de pluie, elle n'y va pas beaucoup.
Ah bon?
Parce que, dans nos villes, elle est dirigée directement vers les rivières par les systèmes d'écoulement.
Mmh. Alors, bah justement, l'autre axe principal de cette table ronde, c'est la restauration des cours d'eau. Et notamment pour prévenir les inondations. Alors, on a eu quelques exemples, et voilà, ces acteurs de l'environnement seront décidés de s'en occuper. Donc voilà. Et puis, il y a la gestion pérenne des ressources en eau. Et notamment, ça sera, je pense, le sujet d'une prochaine émission. De connaître un peu mieux comment se forme la ressource en eau sur le territoire d'Évreux. Quelles sont les attaques qu'elle subit en termes de pollution, etc. Quel est son avenir? Est-ce qu'on aura toujours en abondance une ressource en eau sur Évreux?
D'où vient-elle? Où va-t-elle?
Donc effectivement, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Donc voilà pour la table ronde concernant l'eau.
Donc quatrième, ça concerne l'éducation à l'environnement et au développement durable, avec la volonté d'engager 10 000 projets d'écoles et d'établissements scolaires dans une pratique de développement durable. C'est des choses qui existent déjà, le but est d'accentuer ce qui est déjà fait, former bien sûr les élèves, les étudiants et aussi bien sûr former les enseignants. C'est des choses auxquelles moi, à titre personnel, je participe. Et derrière tout ça, le but est de préparer le mieux possible l'accueil en 2015 de la 21e conférence des parties à la Convention climat.
D'accord.
Mais vous en pensez quoi, vous, les gars, de ces tables rondes? Votre avis est un peu personnel, parce que moi, ça me paraît un petit peu...
C'est un peu le fait là, qu'on décrit ça. C'est un petit peu, c'est ce qui nous a un peu pas amusé dans la description, mais c'est que finalement, ça rejoint tellement de thèmes que ça a du mal, je pense, à intéresser le citoyen moyen. Et à part des gens qui sont investis dans des associations ou professionnellement, je ne sais pas dans quelle mesure le public peut se retrouver dans ce type de manifestation.
Et quelle sera la part, en fait, des actions mises en œuvre suite à ces tables rondes? Parce que bon, après, on peut faire parler les gens, mais...
Oui, tout à fait, voilà. Et puis, comment ça va être transposé dans des lois, dans des réglementations, etc.? Quels vont être les dispositifs financiers incitatifs? En fait, toutes ces questions n'ont pas encore été abordées. Et donc, là, il y a des grandes orientations qui ont été définies, sur lesquelles il y a eu, on va dire, un consensus. Et maintenant, il faut attendre la mise en pratique de toutes les mesures. Dernière table ronde, qui concernait donc l'emploi, la formation et la transition écologique et... présidé, vous m'excuserez du peu, par Cécile Duflot et Michel Sapin. Donc, notamment, qui a travaillé sur mieux connaître les effets sur l'emploi de la transition écologique et énergétique, notamment pour développer des secteurs d'activité tels que la rénovation énergétique du bâtiment, l'efficacité énergétique, la biodiversité et le génie écologique. Voilà. Donc ça, on en avait parlé un peu au moment du débat sur la transition énergétique, de la précarité énergétique, etc.
C'est un peu ce qui m'amuse dans tout ça, c'est qu'en effet, on a fait une émission fin mai sur la transition énergétique. Enfin, et là, on retombe sur une conférence environnementale et on se demande si finalement, c'est pas que de la parlotte, quoi. À un moment ou à un autre, on se demande quelles actions réelles vont partir.
Comme ça,
je pense qu'il y a une bonne, il y a un bon constat de ce qu'il faudrait faire et de ce qu'on pourrait faire. Et finalement, on se pose un peu des questions sur les prises de décision qui en découlent.
Alors malgré tout, c'était l'occasion de concentrer sur 2 jours tous les enjeux aujourd'hui environnementaux, écologiques et économiques qui étaient habituellement discutés de façon dispersée à droite et à gauche, localement, etc. Voilà. Voilà en ce qui concerne la conférence environnementale. On fait une petite pause musicale et on se retrouve pour parler du
nucléaire.
Cause I'm useless.
Vous écoutez Principe Actif, un air de vie.
Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Endless Boogie, General Admission. Deuxième sujet, Fred.
Alors deuxième sujet qui découle du premier, avec toutes ces conférences, ces opérations de consultation de la population pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quel est l'avenir de l'énergie en France. Il y a une enquête de Greenpeace qui est publiée sur le site. J'ai mis le lien sur notre site internet. Et Greenpeace revient un petit peu sur les raisons de l'omniprésence du nucléaire en France. Parce que faut bien voir qu'on est le seul pays au monde à avoir cette part de nucléaire dans notre production d'électricité.
Qui est-ce qui tire les ficelles, c'est ça ?
Et qu'est-ce qui tire les ficelles ? Qu'est-ce qui explique cette situation ? Et en fin de compte, ils ont dégagé quatre grands responsables. Le premier responsable, tout le monde s'en doutait, c'est bien sûr les industriels du nucléaire, Areva, Alstom, Bouygues, et puis des grands consommateurs, Unidem, Solvay. Alors je dis des noms, je ne les connais pas. Et tous ces gens, bien sûr, n'ont pas intérêt à ce que la production d'électricité change en France, et ils ont plutôt intérêt à ce que le choix du nucléaire, avec la construction de nouvelles centrales, soit fait. Derrière ces gens-là, il y a les gens qui viennent de Xmin, tous ces ingénieurs qui ont étudié ensemble.
C'est quoi la Xmin ?
Alors c'est une école. C'est
moi j'étais à l'école de la Madeleine.
L'école des mines.
Voilà, c'est l'école, c'est les ingénieurs qui ont été formés à l'école des mines et ils sont réputés pour avoir un très fort réseau. Et tous ces gens sont, alors tous, je ne peux pas dire tous, mais une grande partie sont impliqués dans les grandes industries. Ils étaient déjà là dans les années 70 au moment du plan Péon pour faire le choix du nucléaire et ils sont à nouveau là dans tous les organes de décision, toutes les commissions, à chaque fois, ce sont eux les experts et ce sont eux qui continuent à verrouiller la politique énergétique en France. Le troisième candidat retenu, ce sont les élus. Ces élus de toutes ces régions, départements, on parlait de Montebourg la semaine dernière, il y a deux semaines, tous ces élus qui sont finalement sur des bassins de population qui vivent grâce à l'énergie du nucléaire. On voit les villes autour de Tricastin où ils sont tous avec peu d'habitants, peu de tourisme, mais des structures.
Des beaux trottoirs.
Voilà, des beaux trottoirs, des belles lumières,
des
beaux gymnases.
Ça paye bien, quoi, ça paye.
Voilà, c'est l'ancienne taxe professionnelle, ça paye et ça emploie. Donc tous ces élus sont finalement de droite ou de gauche, de fervents défenseurs du nucléaire à l'Assemblée dans les différentes commissions. Et le quatrième retenu, ce sont les syndicats. En France, il faut savoir que les grands syndicats, de manière culturelle, sont assez proches des industriels. C'est d'ailleurs c'est Parizeau qui déclarait ça une fois sur une radio, que dans le terme du nucléaire, la CGT et le MEDEF tiraient dans le même sens. Je ne sais plus comment elles présentent ça, mais c'était vraiment un
propos. Ils sont pour le nucléaire. C'est
alors
ça que tu
eux,
dis.
Ils sont pour le nucléaire. Ils défendent le nucléaire. Et derrière ça, ils défendent les emplois du nucléaire et l'argent du nucléaire. Bon, ça, après, ça peut porter débat où une partie de l'argent du nucléaire sert à financer ces syndicats. Donc, Greenpeace ressort ces quatre grands défenseurs du nucléaire en France et explique que ces gens, dans tous les débats qui sont organisés, dans toutes les conférences, c'est des gens qui pèsent lourd et qui interviennent de manière multidirectionnelle pour toujours arriver au même but, c'est-à-dire le maintien du nucléaire en France.
Donc le tiers état n'a rien à dire. La population.
La population, oui.
Ce qui est marrant dans la population, c'est que généralement les gens, si tu leur proposes d'avoir une centrale nucléaire près de chez eux, ils vont dire, quasiment tout le monde dit non. Et finalement, les gens, par exemple, qui ont déjà maintenant la centrale, une fois qu'ils l'ont, ils disent plus non.
Alors par contre, les gens, quand on me dit, moi, si on me dit, je veux bien avoir une centrale nucléaire près de chez toi, je dis non plus. Après, question de proximité est posée.
Personne n'en veut.
Alors personne n'en veut. Et puis même, je veux dire, après, une fois que c'est reconnu comme la question qui se pose actuellement, c'est la fermeture de Fessenheim. Tous les gens qui travaillent à Fessenheim, qui n'aient pas envie que leur entreprise se ferme, je le comprends tout à fait. Je veux dire, on va pas. Après, la question qui se pose, c'est si on fait d'autres choix que le nucléaire, parce que le nucléaire a aussi un coût. Et ce coup-là, si on l'oriente vers d'autres modes de production, ça va aussi créer d'autres types d'emplois avec, pour le coup, un risque sans doute moins important. Mais les gens ont souvent peur de l'inconnu et des changements.
Bah justement, peur de l'inconnu, je voulais rebondir là-dessus sur ce sujet-là, car il y a pas mal justement d'inconnus sur le sujet du nucléaire. Et justement, même du côté des anti-nucléaires, on utilise beaucoup d'arguments en se servant de l'inconnu, et ce qui en fait qui donne et qui génère de la peur. Par exemple, on peut parler de simplement des radiations. Radiation, rien que le mot de radiation fait peur. alors que on ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est. Et on confond même la radiation avec la dangerosité en fait même d'un produit. Par exemple, l'uranium est même plus dangereux d'un point de vue chimique que de ces radiations. Et donc de ça, il y a vraiment une inconnue. Donc dès qu'on dit tiens, il y a quelque chose qui voilà, il y a des radiations, forcément c'est mortel. Alors qu'en fait, il existe des mesures. Les radiations, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, depuis la création de l'univers. Et ces atomes, en fait, ont évolué. Ils s'entrechoquaient. À force, l'espace s'est détendu. Ils s'entrechoquaient moins. Les étoiles, après, grâce à la gravité, se sont formées. On a créé des nouveaux atomes. Ces atomes, on est resté après au stade du fer. Après, on arrive à la supernova. Et là, on arrive à la création d'atomes d'uranium, de plutonium. Et après, d'autres éléments qui sont constitutifs de la vie. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, la plante, vous, votre corps, dans les eaux, vous êtes radioactif. Et en fait, on voit qu'on peut évaluer les rayonnements. Et donc, en fait, il y a différentes études de... Alors, c'est là que je reproche à certains documentaires, où d'ailleurs, on en avait vu un ensemble, où il y avait une bonne femme qui se baladait avec un petit compteur, et puis dès que ça sonnait partout, elle disait « Oh là là !» Alors que finalement, on se rend compte qu'il y a l'unité, il y a le becquerel, le grès et le civert. En fait, il y en a d'autres, mais maintenant, actuellement, c'est les trois qu'on considère. Et le civert... Ça, c'est un mélange, un calcul qui prend la dose en fait de la radiation, mais qui prend en compte d'autres facteurs. Parce qu'en fait, dans les radiations, il y a différents types de rayonnement. Il y a les alpha, les gamma, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais suivant ces facteurs, il y a des coef qui vont de 1 à 20. Et suivant aussi les organes touchés. Et de cela, on a une évaluation du risque de la dangerosité sur le corps humain, sur les organes du corps humain. Donc, ce qui fait que ces gens-là qui montraient la radiation dans la nature, non, ça ne s'applique pas déjà à la faune et à la flore. Donc, il y a un mélange des données et à la fin, on ne s'y retrouve plus. Donc, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, mais comment ça se fait? On trouve si ça... On voit l'OMS a déclaré qu'il ne faut pas dépasser 0,1 millisievert. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en gros, on a prouvé qu'à partir de 1 sievert, c'est sûr, c'est dangereux pour l'homme. Hein. À 6,8, c'est des doses létales. C'est vomissement, etc. Et vous crevez direct. Là, on est sur des doses de 0,1, mais la radioactivité naturelle, d'ailleurs, il y a même des maisons en Bretagne maintenant qui sont interdites parce qu'elles sont entièrement en granit. Il y a trop de radioactivité. Et elle existe partout. Et par exemple, en France, elle dépasse 1 millisievert. Elle dépasse en moyenne à 1,6. Et par exemple, j'ai un tableau avec moi pour vous montrer en fait les doses qu'on peut avoir de radiation à l'usage de tous les jours. Et par exemple, si vous allez passer à l'hôpital un scanner du cerveau, vous allez avoir 6,9 millisievert. Donc on est bien au-dessus de la dose. D'ailleurs, même l'OMS s'est inquiété du développement en France, dans l'imagerie médicale, du développement de ces techniques-là, parce qu'on ne respecte pas, leur dose.
Alors, il faut bien voir, pour médical, c'est une pratique qui est de plus en plus évitée. C'est-à-dire qu'on va éviter qu'on en fasse 2, 3, 4 dans sa vie. Ça va être des...
Exactement. Mais en fait, toutes sortes de choses en fait, apportent. Et en fait, ce qu'on a aussi révélé récemment, contrairement à l'idée des années 50 où on pensait que la dose justement était linéaire, la dangerosité était linéaire, maintenant ça se révèle que c'est faux et qu'on finalement nous avons des effets de seuil. Et il ne faut pas dépasser certains seuils. À partir de certains seuils, on a effectivement constaté des effets nocifs pour l'être humain. Par contre, actuellement, on constate aussi des effets bénéfiques à très faible dose. C'est ce qui s'est passé en fait à Tchernobyl, dans les régions maintenant qui sont complètement développées, où les scientifiques sont comme des rois parce qu'ils peuvent étudier la nature, et la nature a repris ses droits. Et d'ailleurs, cette application-là, maintenant, va commencer à être appliquée pour les hommes, pour des thérapies. Voilà.
Voilà. Alors après, derrière ce que tu expliques, en effet, il y a la question des radiations naturelles, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir rencontrer. La vraie question qui se pose derrière la production d'électricité, c'est tout ce qui va devenir, c'est l'industrialisation de ce procédé.
Le problème de ce procédé-là, c'est que nous, donc on extrait de l'uranium. Alors, d'ailleurs, il y a un problème de pollution que nous, on ne dit pas dans le nucléaire, c'est qu'en fait, la pollution, on la fait ailleurs, c'est jamais chez soi.
Voilà, c'est l'uranium.
Et voilà, on le fait dans le Niger, etc. Et les méthodes d'exploitation, nous, on n'a aucun regard là-dessus. Donc, même si quelqu'un nous dit un jour, nous, on est très propre, etc., ouais, mais quand tu es là-bas et que personne ne te voit, est-ce que tu es très propre? Et même d'un point de vue social, enfin, dans tous les sens, on n'est pas sûr que ça va trop loin. Le problème donc, du nucléaire, quoi qu'il arrive, c'est qu'il produit des déchets. Donc on prend l'uranium et on va l'enrichir pour qu'il puisse faire des réactions en chaîne de fission nucléaire. Mais ces déchets-là, on a plusieurs types de déchets qui vont être produits. Donc en fait, quand il y a une fission, il y a une énergie qui est dégagée. Ça, c'est le premier type de déchets qu'on va répertorier. Il y a le deuxième type de déchets, ce qui fait que des fois, il n'y a pas toujours fission. Et finalement, on a la création d'un atome encore plus lourd, type plutonium. Et ça, c'est un autre type de déchet très radioactif qui va durer très très longtemps et qu'on ne va pas savoir garder. Et troisième, bon, en gros, c'est les déchets. Donc le problème, la solution, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne sait aujourd'hui pas quoi en faire. Il n'y a que les Américains et les Suédois qui ont choisi une option et le reste du monde, en gros, choisit l'autre option. L'option choisie par les Américains, c'est l'enfouissement très profondément, à plus de 500 mètres, etc. Et en gros, c'est ad vitaernam, bam, c'est scellé et on n'y touche plus. Et d'ailleurs, on ne sait même pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer des milliers d'années. Les Français préfèrent une autre voie. On va dire que ce sera du semi-enfouissement. C'est du stockage provisoire. Et en gros, on laisse la main aux futures générations. On va compter dans 2-3 générations, jusqu'à 6 générations. Et on va se dire, en fait, et ça revient avec l'optimisme des anciennes générations, des ingénieurs de l'école des mines, etc., qui ont toujours un optimisme sur la capacité de la science à pouvoir avoir un impact favorable sociétal.
Voilà, en gros, on met un petit peu les déchets sous le tapis. Le projet là qui est actuellement en France, c'est un projet d'enfouissement quand même c'est très profond, avec en effet un système de réversibilité,
c'est-à-dire
qu'on va pouvoir les récupérer les déchets quand on sera capable de les traiter.
Ouais.
Le problème de même ce type de choix, c'est que on continue à produire des déchets, donc ça s'accumule.
Alors,
et il va falloir quand même, enfin à un moment.
Il faut quand même dire qu'à un moment donné, effectivement, ça produit des déchets, mais en fait, ce sont que des déchets que l'industrie actuellement ne sait pas réutiliser pour en produire de l'énergie. Sinon, en fait, pendant ces transformations atomiques, qui s'appellent les radiations, on recrée de l'uranium, etc., qui va resservir comme combustible pour les centrales. Par contre, il y a plein d'autres qui sont considérés comme nuls. Ce sont réellement, et ça, on ne sait pas quoi en faire. Mais ah oui, le troisième déchet qu'on oublie de dire souvent, ce sont en fait tout simplement la centrale elle-même. Car en fait, la centrale subit les interactions aussi avec les neutrons et on arrive à une nouvelle forme de déchets, rien que la cuve qui concentre, etc. Et tout ça, comment le recycler? En fait, bah, tout ça, on ne sait pas faire. Donc actuellement, il y a un potentiel énorme du nucléaire. Même ceux qui sont pros, bah, ils mettent plein de choses en avant. Ils vont dire, regarde, avec le nucléaire, ça ne prend pas de place comparé à un parc éolien, etc. Ils vont dire plein de choses, mais en fait, ils nient pas forcément les côtés négatifs des radiations et tout, même si j'ai l'impression que des fois, ils se ferment un petit peu les yeux sur les dégâts qui se font un petit peu plus loin. Mais il y a un optimisme, en fait, c'est ça. J'ai l'impression vraiment que c'est un optimisme.
D'autant plus que le démantèlement des centrales nucléaires pourrait être une source de création d'emplois terrible.
Oui, et puis, peut-être une solution aussi pour le problème des retraites. Et derrière ça, un optimisme, oui, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'argent à gagner aujourd'hui. Et c'est avant tout un marché très prometteur pour les entreprises françaises, et c'est aussi des choix qui sont faits des fois.
C'est sûr, mais ça, c'est un choix stratégique de la France depuis longtemps. Voilà. Donc, on y est.
Bah, alors, c'est un choix stratégique de la France depuis 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le continuer. Il y a des pays qui sortent du nucléaire. Hein,
c'est et vrai. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y a des pays qui sortent du nucléaire, mais j'ai vu que les Allemands étaient donnés des sous dans une société d'enrichissement d'uranium.
Oui, bon,
eux, ils ont le beurre et l'argent du beurre, ils font le fric à côté. Puis
alors, pour revenir à tes premiers propos, Fred, ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré la consultation publique, les débats publics, notamment ouverts sur Internet, à destination de la population, selon le rapport de Greenpeace, en fait, la décision serait déjà bouclée. Quoi. Malgré toute cette volonté d'ouvrir à la population la concertation, la consultation, on va prendre en compte vos inquiétudes, on va vous montrer qu'on a prévu, qu'on a anticipé, etc. De toute façon, tout est déjà bouclé. Tous les décideurs ont déjà fermé la porte.
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'industrie du nucléaire est déjà bien installée dans tous les processus décisionnels. Ils sont déjà bien en place. Dès 73, il y avait Monsieur Boiteux, qui était président de l'EDF, a dit mot pour mot que de toute façon le nucléaire c'était trop compliqué pour les députés, donc ça servait à rien qu'ils donnent leur avis. Derrière toute cette complexité sur les différents sur les radiations, tout ça, c'est vrai que ça, pour moi, c'est des choses qui noient un peu le poisson. Et surtout, ce rapport-là montre qu'il y a vraiment un gros lobby derrière le nucléaire. Et après, dans ce genre de conférence, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en face, et surtout que les gens qui sont défendeurs du nucléaire, c'est pas forcément ceux qu'on attend. Que ça soit les industriels du nucléaire, tout le monde s'y prête. Après, que les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est-à-dire en ayant des fois un discours national où il va être plutôt contre le nucléaire, finalement, va défendre les décisions qui défendent le nucléaire.
Parce qu'on a un président de la République qui s'est engagé à faire passer la part du nucléaire dans la production électrique de 75 à 50%.
Et ça, j'ai l'impression qu'on en est loin.
Derrière ça, il y a une volonté politique, il y a une réalité politique. Et cette réalité-là. Alors après, je veux dire, que des gens défendent le nucléaire, je le comprends aussi de manière. Alors, il y a deux arguments. Les arguments que tu développais sur le fait que c'est faut pas non plus diaboliser, je suis entièrement d'accord avec toi, et qu'il y ait des solutions, même médicales, tout ça, qui soient intéressantes. Après, moi, c'est vraiment dans l'exploitation, et même dans l'exploitation du nucléaire, qui est plus
d'ailleurs,
un peu une remise en
privé, d'ailleurs, oui. Parce que d'ailleurs, ceux qui sont pros, ils vont toujours dire, mais si, il suffit en fait d'augmenter les règles de sûreté, etc. Mais finalement, qui est-ce qui va contrôler? Qui est-ce qui va faire les contrôles, etc.? Qui est-ce qui va gérer cette sûreté? Qui est-ce qui gère le contrôle? Parce que Fukushima, ils ont montré des négligences. À Tchernobyl, il y avait une négligence. Et il y avait aussi, on oublie un incident, mais parce que ce qui est marrant, j'ai repensé à ça, mais Tchernobyl, on en a beaucoup parlé. En gros, il y a une échelle en fait, des incidents nucléaires qui monte jusqu'à 7. Tchernobyl, c'était 7. Mais il y a eu un énorme aussi incident avant. C'était des Américains. Et eux, c'était monté à 5. Et pourtant, on n'en parle quasiment jamais. On n'en parle jamais dans les médias. Enfin, c'est un petit peu...
La France est actuellement le pays qui n'a...
Nous, on est resté à 2 en France.
Ouais, puis c'est le seul pays qui a jamais connu de grande catastrophe nucléaire pour l'instant. C'est le dernier pays, puisque oui, tous les autres grands pays de producteurs d'électricité nucléaire ont tous rencontré un incident à un moment ou un autre.
Mais il y a des incidents tout le temps, mais oui. D'échelle non, mais 1 voilà, à 2, voilà, c'est voilà, ça. C'est en fait, d'ailleurs, c'est le bon mot, c'est des incidents, et à partir de 4, on dit accident. Ça, c'est, là, ça commence à être problématique.
Et donc, oui, derrière, c'est juste ça sur le... Moi, derrière, ce qui m'interroge toujours, c'est tout à l'heure, en départ, tu parlais de l'économie circulaire, où les gens devaient payer parce qu'ils vont polluer, et par exemple, le prix du démantèlement ne rentre pas dans le prix du kilowatt. Donc, le producteur d'électricité ne prépare pas le démantèlement des centrales nucléaires au niveau financier. Et ça, c'est une vraie question.
Donc, effectivement, une première dérogation ou un premier manquement à cet engagement sur l'économie circulaire.
Ça paraît être un manque de sagesse, en fait, je trouve. En fait, l'exploitation un peu outrancière, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va faire derrière.
On fait une pause musicale? Ouais.
On y va.
Allez. Bah, écoute.
Qu'est-ce que tu nous mets?
Allez, on va écouter un petit tube que tout le monde connaît, en fait, des Beatles, mais une autre version reprise par Wilson Pickett.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it in your heart. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Bad. Take a sad song
Vous écoutez Un air de vie sur Principe Actif. C'était quoi ça, Kevin?
Eh ben, c'était une version plutôt sympa, non? Je sais pas ce que t'en as pensé. Ed Jude, oh, des Beatles, reprise par Wilson Pickett, avec ouais, d'ailleurs un des guitaristes des Allman Brothers avec lui.
Ouais, non, ouais, c'était ça, parce que je suis pas un grand fan des Beatles. Ça veut pas dire
mais
que je suis.
C'est une version longue.
Ça veut dire, ouais, c'est une version longue. Ouais. Ça veut, pas... moi, ça veut dire que je suis pro Rolling Stone, hein, parce que moi je rentre pas.
Oui, on en avait parlé, ouais.
Je suis au-dessus de tout ça. Bon, troisième sujet.
Alors.
On parle de quoi?
Ben, on parle du Jack.
Du Jack. Alors, le Jack.
Jackman.
Alors, on va parler du groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a rendu les conclusions de son cinquième rapport, là, courant septembre.
Le, et nous... is back.
Le dernier rapport, c'était ça datait combien de temps?
Oh, je sais
à peu
plus.
Près
il y a 5 ans.
Déjà voilà.
Et ouais, bah ouais, le temps passe. Hein. Et ils nous ont fait peur. Hein. Vous savez ce qu'ils ont
passer?
Dit
non.
C'était pire.
C'était pire. D'ici à 2100. Écoute bien, Kevin, parce que je crois que t'es concerné. Non. Les températures auront augmenté en moyenne de 5 degrés. 5 degrés. Vous imaginez un peu?
Donc, en fait, quand tu parles de 5 degrés, tu parles de la surface moyenne, la médiane, en fait, la moyenne de la température de la planète Terre.
Voilà, bon, ouais, mathématiquement, ça doit représenter ça. Mais bon.
Parce que bon, ok, d'accord.
Voilà. Mais surtout, le niveau des océans va augmenter d'un mètre.
Ah, un mètre.
Alors, ça vous fait penser à quelle population qui va bientôt devoir déménager?
Bah, ceux qui habitent sur les îles, tout
les
ça.
Les Bretons.
Voilà. Les Amsterdam. Mais voilà, non, très sérieusement, voilà, l'enjeu est considérable. À tel point qu'aujourd'hui, la fiabilité de ces conclusions est largement partagée. On reviendra malgré tout sur ce qu'on appelle les climato-sceptiques.
Mais ah oui, parce qu'ils vont te dire que la glace, elle fond, mais quand tu mets un glaçon dans ton verre, l'eau, elle bouge pas, hein, parce que le glaçon, après, la ligne de flottaison augmente.
Voilà. Et ce que fait ressortir aussi le GIEC dans son rapport, c'est que bah, c'est nous les responsables. Bah
ah,
oui,
ah oui.
Toi, Kevin, toi, Fred, moi, je sais
humaines.
Pas. Voilà. À 9,9. C'est une probabilité de 9,9 sur 10. C'est l'activité humaine qu'on dit anthropique. Voilà, il y a eu clairement une accélération. Voilà, bah, l'homme produit des gaz à effet de serre par ses activités. Et donc, l'accumulation de ces gaz à effet de serre provoque ce réchauffement climatique. Voilà.
Alors, moi, je voudrais mettre deux points par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport à l'augmentation de température et à l'élèvement du niveau de l'eau, tu as quand même donné...
Élèvement ou élévation?
Élévation, pardon.
Ouais,
bref. Ouais. Tu as donné les deux mesures maximales. Hein, à chaque fois, le GIEC donne une fourchette...
prévisionnelle.
Large. Ça peut aller jusqu'à 5 degrés, mais le GIEC donne encore quelques possibilités pour que ça soit un peu moins.
Ils ont toujours plusieurs scénarios. Là, c'est le choix du scénario le plus plausible, c'est ça?
Oh, il y a une convergence, malgré tout. Non, effectivement, ils ont plusieurs scénarios. Ils ont du pessimiste, de l'optimiste, du probable, du réaliste, etc. Voilà. Okay.
Moi, dans l'article que j'ai lu, ils mettent juste. Mais dans le scénario le plus noir, les experts donnent comme fourchette haute le chiffre de 98 cm d'élévation moyenne. Donc, c'est pour ça que c'est dans la fourchette. Enfin,
oui, fourchette haute.
Oui, okay. Dans le scénario le plus noir.
Okay. Mais vous connaissez la fourchette basse, non?
Bah, je peux vous l'indiquer. Donc, effectivement, les climatologues du GIEC envisagent une hausse de température comprise entre 1 degré pour le scénario le plus favorable et 2 degrés pour le scénario le plus pessimiste sur la période allant de 2046 à 2065. Ah, donc, de 1 à 2, de 2046 à 2065.
C'est vrai que ce type d'info, il faut quand même le dire, parce que des fois, on a l'impression que ça ne va pas dire grand-chose. Tiens, il va faire 1 degré de plus. Bah, d'ailleurs, hier, il faisait 2 degrés de moins. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment des degrés qui vont impliquer des modifications des climats et donc de plein d'écosystèmes et donc vraiment une modification environnementale.
Et donc, l'accélération se fait sur la période de 2081 à 2100, où là, on gagnerait par rapport à la période précédente 1 à 3,7 degrés. Donc effectivement, il y a un scénario pessimiste et il y a un scénario, on va dire, plutôt réaliste. Mais malgré tout, on reste dans des proportions très importantes.
Oui, parce que ce que confirme le GIEC, c'est qu'entre guillemets, alors il y a de moins en moins de contestations par rapport à leurs conclusions au niveau de l'origine humaine et tout ça. Et derrière ça, ce qui confirme, c'est que les scénarios, alors même si finalement il y a une augmentation de température qui n'a pas été aussi importante que celle prévue par rapport à des conditions plus générales, enfin le réchauffement, enfin des explosions solaires ou des choses comme ça, globalement ça confirme tout ce qu'ils avaient prévu jusque-là.
Alors comment réagissent nos décideurs?
Ils sont heureux, vive le nucléaire, pas de CO2, voilà.
Exactement, tout
c'est
à
ça,
fait.
Le développement durable.
Allez, quelques réactions. Notamment le directeur général du programme des Nations Unies pour l'environnement, bah lui il a déclaré « On ne connaît pas encore tout du climat, mais on en sait déjà suffisamment pour agir. » Voilà, bon ouais. Bah voilà. Bon, est-ce qu'il va être suivi, ça c'est autre chose, hein, voilà.
Ouais, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des membres des X-Men au GIEC.
Écoute, j'ai pas exploré, j'ai pas envoyé.
Puis comme je crois.
Comme je savais pas ce que c'était que X-Men, hein, parce que moi j'étais à la Madeleine à l'école. Donc. Bon, de son côté, les Américains. Bon, le problème c'est que les Américains là, ils se sont exprimés par la voix de John Kerry, le secrétaire d'État, qui est plutôt lui un pro environnement. Donc, est-ce qu'il est représentatif des États-Unis?
Un Américain pro environnement.
Ouais. Et lui, hein, voilà, il dit que ce ne s'agit pas d'un énième appel, hein, vraiment, là, l'alerte doit être donnée.
Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas une campagne électorale, non? Pourquoi il dit ça à ce moment-là?
Oh, je sais pas. Ah, ouais. Je sais pas.
Parce que bon, ouais. Les Américains, c'est quand même les premiers à tout défricher, vraiment comme ils veulent, quoi. Entre l'exploitation du gaz de schiste, où vraiment, bah, même les populations en subissent les dégâts chez eux, les volontés d'extraire le pétrole en Alaska, voilà. Etc., c'est pas...
Et puis, parlons de ce grand pays, la Chine, qui, lui, a tenté d'affaiblir les conclusions du rapport, puisqu'ils indiquent qu'un point du cinquième rapport du GIEC, en particulier établissant la quantité de carbone qu'il est encore possible d'émettre, en conservant 2 chances sur 3 de demeurer sous les seuils de 2 degrés de réchauffement. Donc eux...
On comprend leur intérêt, c'est normal, ils ont envie de se développer, quoi.
Eux, voilà, bon, on n'est pas loin du scepticisme dont on va reparler après, et c'est un point de vue qui a été aussi soutenu, il faut le savoir, par les Saoudiens, bien sûr.
Ils n'ont pas envie qu'on arrête le pétrole?
Bah, il semblerait. Bon, ouais. bon c'est peut-être
et
des
les
conclusions.
Chinois qui développent beaucoup le nucléaire aussi. Là. C'est ils vont faire un parc là, de 12 centrales, je crois.
Voilà, tout à fait. Alors, on va peut-être expliquer quand même, avant de parler des climato-sceptiques, hein, c'est pas facile à dire un climato-sceptique, on va peut-être reparler de ce que c'est le GIEC. Hein. Non? Avant tout,
alors
pour rétablir
le groupement international.
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Voilà.
Donc, ce groupe a été créé en 1988 par 2 grandes institutions des Nations Unies, l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, dont je viens parler notamment par les propos de son directeur général. Alors, en fait, le GIEC, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un organisme de recherche.
Ah non.
Ouais, exactement. Donc le fait, le GIEC, il cherche à dégager un consensus de la communauté scientifique. Ouais.
C'est une méthodologie scientifique, hein, d'ailleurs, parce que généralement on a souvent des experts et les experts publient. Et suite à ça, on a une culture scientifique en fait, avec plein de un savoir accumulé. Et de cette accumulation, on arrive après à sortir des vérités scientifiques.
Donc,
et le GIEC essaye d'avoir cette démarche scientifique en récoltant un maximum d'informations, qui fait que même un spécialiste d'une discipline, par exemple un océanologue ou autre, qui ne serait pas d'accord avec l'affirmation du GIEC, mais son travail en fait partie quand même.
Tout à fait. Alors, en quelques chiffres, pour illustrer ce que tu viens de dire, effectivement, 2500 experts scientifiques et relecteurs, originaires de plus de 130 pays, sont mis à contribution. On a 831 auteurs qui ont contribué au cinquième rapport, celui dont on vient parler. Et puis, on parle un peu de sous. Le GIEC a un budget de 5 millions d'euros et la France y contribue pour 200 000 euros par an. Voilà.
Ouais, ça a l'air d'être une bonne fourchette. Ouais.
Il y a 195 membres qui représentent quasiment la totalité des pays du monde. Voilà. Donc c'est une organisation et il n'y a que 5, on va dire entre guillemets, 5 salariés. Le reste, après, ça sert à financer le recueil des études, etc., la consultation, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas vocation...
Donc attends, les scientifiques qui font donc les synthèses, etc., ils travaillent en fait, ils font ça de manière bénévole?
Non, bien sûr, c'est déjà des programmes qui sont financés, pour lesquels ils ont déjà des financements par ailleurs, mais pour...
Parallèle,
ah bon? Mais pour pouvoir les regrouper, les analyser, les disséquer, etc., malgré tout, il y a tout ce budget qui sert à ça. Voilà. Donc voilà pour rétablir un peu le GIEC qui vient de rendre ce rapport alarmiste. Hein. Moi là je vois, vous êtes tout blanc, vous avez peur tous les deux là.
Ouais.
Voilà.
Ça va être le retour des films catastrophes à la Roland Emmerich.
Mais bon, je vais vous rassurer, il y a des climato-sceptiques qui eux ont leur théorie.
Tu as retrouvé Claude.
Voilà, Claude.
Claude Allègre.
Non mais déjà dans les précédents rapports, il y avait des gens qui s'excluaient des signatures parce qu'ils voulaient... Bon, ils ont donné leurs travaux, mais ils n'étaient tellement pas d'accord avec les résultats et de la manière dont c'était servi de leurs travaux, ils ne voulaient pas être cités.
Voilà. Bon, moi, je vous donne quelques exemples de climato-sceptiques. Alors, je vous préviens, j'ai élagué, hein, j'ai enlevé les farfelus, etc. Donc, Claude, pardon, rien dit. J'allais dire Claude n'y est pas. Alors, on commence par... Alors, vous m'excuserez, j'ai peut-être un moment écorché quelques noms, parce que, bon, voilà. Ça commence par Habibullo Abdussamatov. Vous le connaissez ?
Non.
Bon, vous pouvez le replacer dans une conversation. Il dirige l'Observatoire astronomique de Saint-Pétersbourg. Et lui, il doute que l'activité humaine soit responsable du réchauffement de la Terre. Parce que il dit qu'il y a le même phénomène qui est observable sur Mars. Donc il dit, voilà, c'est pas propre à l'activité humaine. On peut l'observer sur toutes les planètes.
Oui. Alors, le rapport du GIEC met en avant le rôle de l'activité humaine. Après, il dit bien que c'est pas le seul facteur du réchauffement climatique.
Ouais.
Mais par contre, c'est le seul sur lequel on peut agir.
En fait, il dit que le GIEC en fait, met l'accent sur la production de CO2 qui est d'origine humaine. Par contre, il y a quand même un réchauffement qui peut être dû à des vents solaires, etc.
Je vous redonne quelques autres climato-sceptiques, parce que le temps passe. Là, on a un physicien hongrois. Alors là, c'est terrible. Ferenc Miskolczy. Ok.
J'ai pas entendu. Pardon, tu peux répéter.
Donc lui, en 2008, il dit que, bah, en fait... l'influence du gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique est surestimée et qu'il faut rechercher d'autres causes à ce réchauffement. Et d'autre part, que l'effet de serre terrestre est saturé, qu'il ne peut ni augmenter ni diminuer. C'est une approche particulière.
Et en fait, il s'explique un petit peu ou il balance des vérités.
J'ai lu son livre. Alors, bon, voilà, non. Voilà, grosso modo.
Tu n'as pas réussi à avoir un regard de la communauté scientifique sur ses travaux.
Non plus. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y a l'influence de l'activité solaire qui est mise en avance par certains. Voilà, pour atténuer l'influence de l'homme, etc. Bien sûr, quand il y a une forte.
C'est pas ils le font pas pour atténuer l'influence de l'homme. C'est un fait, ça existe, et dans la
bah, sauf
reproduction...
Sauf qu'actuellement, on serait en période de basse activité solaire. Donc ça ne serait pas expliqué.
Non, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'on était dans la bonne période des 11 ans. Ouais.
Bon. Et puis l'autre aspect, c'est, des fois ça vient directement de scientifiques qui sont du GIEC, parce qu'ils disent que le GIEC, des fois, fait des erreurs. Et notamment, il y en a une qui est relativement connue... il y aurait eu bien une erreur sur la date de fonte des glaciers de l'Himalaya. Et donc, cette erreur a été trouvée par Georges Kaiser de l'Institut de glaciologie d'Innsbruck, voilà, qui a relevé des erreurs dans les données statistiques, etc. Et une erreur, donc, une affirmation a été reprise. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de relever, et on va finir là-dessus, c'est que parfois... je bafouille.
Allez,
c'est
pas grave.
Que... parfois, effectivement, les climato-sceptiques ont une forte influence, là on rejoint le nucléaire, sur la communauté scientifique et les pro-réchauffement climatique sont parfois marginalisés. À tel point qu'en 2010, il y a 410 chercheurs français qui ont écrit une lettre donc à la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'époque Valérie Pécresse, pour lui demander d'exprimer publiquement sa confiance vis-à-vis de leurs travaux. Et donc, elle a un petit peu botté en touche, cette dame-là. Elle a dit que...
heureusement, ça n'a rien à voir avec la politique.
A renvoyé l'étude et les conclusions et donc à l'Académie des sciences, bien sûr, qui en 2010, lui, a déclaré « il y a réchauffement climatique ». Voilà, on s'arrête...
Moi, je vais juste rajouter un petit quelque chose sur ce réchauffement climatique, sur les conclusions du GIEC. C'est qu'ils font une carte, une planisphère qui montre un petit peu les pays qui seront le plus touchés par ce réchauffement climatique. Et comme par hasard, ce n'est pas nous. C'est tous les pays qui vont être sur l'équateur, les pays pauvres, et notamment une grande partie de l'Afrique qui va être touchée directement par ces transformations de température.
Donc on ne va pas aller se baigner à la bonne ville.
Et en parallèle à ça, il y a une étude sur la population et qui fait apparaître qu'en 2100, il y a peut-être un tiers de la population qui habitera en Afrique, enfin qui sera dans les pays africains. Donc ça pose une réelle question sur à la fois qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce qu'il y aura vraiment une réelle volonté de le faire.
Okay. Merci messieurs.
Merci à tous. On
Merci
se retrouve dans
tous.
Deux semaines.
À très bientôt.
Bonne soirée à tous.
Ciao.
En air de vie. Une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.